europejskie.
Rozumiem tutaj Europę.
Rozkrucia Europej.
Stavrodromy tis Europis.
Treffpunkt Europa.
The hub of Europe.
Carrefour de l'Europe.
Daniel Desesquelles.
Bonjour, bienvenue au Carrefour de l'Europe avec cette semaine une unique invitée, la secrétaire d'État en charge des affaires européennes, Amélie de Montchalin. Quelle relation l'Union européenne entend-elle conclure avec le Royaume-Uni après le Brexit? Comment financer l'ambitieux projet de la Commission européenne contre le réchauffement climatique, c'est le fameux pacte vert, ce qui pose immédiatement la question du budget de l'Union européenne qui est en pleine discussion. La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, entend conduire une commission géopolitique. Et vendredi dernier, le président de la République a exhorté les Européens à un dialogue stratégique sur la dissuasion nucléaire. Autrement dit, deux façons d'aborder le thème de la place de l'Europe dans le monde. Bonjour Amélie de Montchalin.
Bonjour.
À mes côtés, pour vous interroger, Clémentine Forissier, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes la rédactrice en chef du site contexte.com, le site des politiques françaises et européennes. Amélie de Montchalin, vous avez 34 ans, je ne suis pas remontée jusque la nuit des temps, mais sauf erreur de ma part, vous êtes la plus jeune secrétaire d'État aux affaires européennes, vous confirmez ?
C'est probablement le cas. J'ai réuni il y a quelques semaines toutes les femmes qui m'ont précédée à ce poste. Et il se trouve que la première était Catherine Lalumière et elle avait ce poste quand je suis née. Et c'était un très beau passage au témoin. Je crois que c'est un sujet sur lequel il faut à la fois beaucoup d'humilité et beaucoup de persévérance. Et donc on était 9 femmes autour de la table. Et je crois que à nous toutes, on a tout essayé de faire avancer l'Europe. Et je crois que je suis à la fois fière et très honorée au fond de pouvoir prendre ce relais.
Vous êtes diplômée d'HEC à la Grande École de Commerce ainsi que de la Harvard Kennedy School. Et tout naturellement, vous travaillez dans l'univers de la banque et des assurances au sortir de vos études. Politiquement, vous êtes proche d'Alain Juppé. Et lorsque ce dernier échoue à la primaire des Républicains face à François Fillon, vous rejoignez Emmanuel Macron. Élu député de l'Essonne, vous êtes en toute logique très active à la Commission des Finances. Avant d'être nommée en mars 2019 secrétaire d'État en charge des affaires européennes, vous succédez à Nathalie Loiseau, partie vers d'autres cieux. Amélie de Montchalin, quel était le déclic de votre fibre européenne? À quel moment s'est-il produit?
Alors, c'est un événement très personnel. J'avais 10 ans, on habitait à Calais avec ma famille. Et le 8 mai 1995, 50 ans après donc l'armistice de la Deuxième Guerre mondiale, quand vous êtes à Calais, les stigmates de la guerre sont encore très visibles. Il y a des bunkers, le paysage a été extrêmement abîmé par cette guerre. Et ce jour-là, eh bien, j'ai entendu un discours, comme on en lit souvent lors des cérémonies officielles. Il parlait d'Europe et il parlait de paix. Et je crois que ça m'a marqué très profondément. Ensuite, dans ma vie professionnelle, j'ai pu travailler sur la crise de la zone euro en particulier. Et je crois que je me suis dit qu'il fallait qu'on s'occupe de notre continent activement.
Clémentine Forissier.
On va changer de sujet pour parler d'un dossier qui va vous occuper, je pense, beaucoup les mois qui les prochains mois, le Brexit. On passe dans une deuxième phase après de longues années pour essayer de se mettre d'accord sur la façon dont on divorce. Maintenant, on parle de la relation future. Les Européens sont-ils tous d'accord sur ce qu'ils veulent dans la négociation avec les Britanniques ?
Je crois qu'on a conscience que l'unité a fait notre force dans les 3 ans et demi qui s'achèvent de discussions objectivement compliquées avec le Royaume-Uni sur cet accord de retrait, la sortie ordonnée qui a eu lieu le 31 janvier. Dans la seconde phase, l'unité est vue par tous comme absolument nécessaire. On voit bien que le risque, c'est que nous nous divisions sur le Brexit et que ces divisions nous divisent sur le reste. On a tous conscience que la meilleure réponse au Brexit, c'est bien sûr d'avoir un accord solide avec le Royaume-Uni, mais c'est aussi de faire avancer l'Europe sur ses politiques. C'est de pouvoir travailler, on y reviendra sûrement, sur le changement climatique, sur les sujets migratoires, sur les sujets économiques. Et donc, il faut que nous préservions notre unité absolument sur le Brexit pour pouvoir eh bien, travailler à notre unité sur le reste. Vous savez, il y a eu des groupes de travail techniques depuis quelques semaines pour préparer le mandat qui a été confié à Michel Barnier pour organiser la relation avec les Britanniques. Ces groupes techniques, ils ont montré une chose, c'est que sur l'immense majorité des sujets, très rapidement et en fait assez facilement, les 27 sont d'accord et sont d'accord avec la Commission sur ce que nous devons faire. Et ce que nous devons faire, ce n'est pas de punir le Royaume-Uni, mais c'est d'être extrêmement ferme sur le fait que nous devons maintenir une relation équilibrée. C'est-à-dire que nous ne devons pas accepter de concurrence déloyale. Nous devons nous assurer qu'un certain nombre de règles restent partagées de part et d'autre de la Manche, parce que nos relations sont extrêmement profondes, intenses, commercialement, C'est le cœur de ce que souhaite Boris Johnson, mais elles le sont aussi dans le domaine de la sécurité, dans le domaine de la défense, dans le domaine des transports, dans le domaine de la recherche. Et donc, il y a beaucoup d'autres sujets que le sujet commercial, mais le sujet commercial, on l'a mis au cœur, on l'a mis aussi à côté de sujets comme la pêche, comme ce respect des mêmes règles. Et au fond, si on doit résumer notre position sur laquelle on est unis, c'est que nous ne serons d'accord sur rien avec les Britanniques si nous ne sommes pas d'accord sur tout. On ne veut pas du saucissonnage.
Mais alors là, juste pour rebondir sur ce sujet, ça, j'entends bien cette question de l'unité qui est extrêmement importante. Donc vous n'avez aucune inquiétude, il n'y a aucun sujet sur lequel vous vous dites « là, bon, il va falloir être très vigilant ».
Il y a des sujets sur lesquels on doit être très vigilant. Je prends l'exemple de la pêche. J'étais mardi à Port-en-Bessin avec Sibeth Hendaye pour voir les pêcheurs normands. J'étais vendredi avec Jean-Yves Le Drian en Bretagne pour voir les pêcheurs, notamment bretons. C'est un sujet qui est majeur. Il n'y a que 9 pays dans l'Union européenne qui sont directement concernés, c'est-à-dire les pays qui vont de la Pologne à l'Espagne. Évidemment, l'Autriche, vous voyez, ou la Bulgarie ou d'autres ne sont pas directement concernés par le sujet de la pêche. Comment nous garantissons un accès aux eaux britanniques pour nos pêcheurs? Comment nous gérons ensemble la ressource? C'est-à-dire comment nous protégeons les stocks de poissons qui, eux, ne connaissent pas la frontière et qui vont au nord ou au sud de la ligne imaginaire qui sépare le Royaume-Uni maintenant de la France et du reste de l'Union européenne? Comment nous avons la prévisibilité? C'est des sujets qui sont majeurs. Et quand vous êtes au Danemark, vous avez exactement les mêmes problématiques que quand vous êtes en France. Comment on s'assure de l'unité des 27? On s'assure en disant... Parce que vous nous soutiendrez, nous, 9 pays, sur le sujet de la pêche, on pourra vous soutenir, vous, tel pays ou autre, sur un point particulier d'intérêt pour vous. Et chaque pays, effectivement, a parfois des sujets d'intérêt ou de priorité un peu différents. Mais on sait que c'est parce que nous défendrons tous ensemble les intérêts de chacun que chacun trouvera son intérêt dans cette négociation. Et donc ça nous lie les uns et les autres.
Alors on comprend, vous écoutez Amélie de Montchalin, que les Européens sont unis sur la négociation, sur la relation future qu'ils veulent avec les Britanniques. C'est pas ce que dit Boris Johnson. Boris Johnson, il dit au contraire, le Royaume-Uni n'a pas à s'aligner sur les règles de l'Union Européenne, sur la concurrence, les subventions, la protection sociale, l'environnement, pour espérer un accord de libre-échange. Donc il y a quand même toujours, chez les Britanniques et chez Boris Johnson, leur leader, la tentation d'être très différent et de s'éloigner de l'Union Européenne.
Alors, il y a plusieurs choses. D'abord, le Royaume-Uni a retrouvé sa souveraineté normative. C'est un fait, c'était le 31 janvier. Ça veut dire que tout ce qui se passe chez lui le concerne. Et l'Union européenne n'a rien à dire sur ce qui se passe chez lui. Maintenant, à partir du moment où les produits ou les services passent la frontière et se dirigent vers chez nous, Européens, cela nous concerne. Et ce que nous disons, c'est que nous ne pouvons pas politiquement accepter que ce que nous demande Boris Johnson, à savoir un commerce sans tarifs douaniers et sans quotas, se fasse intégralement si nous ne sommes pas d'accord sur l'essentiel, c'est-à-dire qu'il se fera aussi sans dumping. Je veux dire aussi ici, très fermement, que ce commerce, quel qu'il soit, se fera avec des contrôles, parce que nous ne sommes plus dans le même espace. La Cour de justice de l'Union européenne ne régira plus l'intégralité de ce que nous faisons ensemble. Donc, moi, je peux vous dire... On peut signer très rapidement un accord commercial de libre-échange total avec le Royaume-Uni. Nous en avons un avec la Norvège, nous en avons un avec la Suisse, avec des régimes différents. Mais
il y a
un précédent, il y a des contreparties. Et ces contreparties, c'est que nous, de part et d'autre de cette frontière, les mêmes règles s'appliquent, notamment en matière environnementale, en matière industrielle, en matière fiscale. Il y a un certain nombre de règles qui sont partagées. Vous savez, on a des accords de libre-échange avec d'autres pays dans le monde. Boris Johnson parle souvent du Canada. Mais dans cet accord-là, la plupart des biens sont échangés sans tarifs douaniers. Certains biens ont des tarifs douaniers, d'autres ont des limites en volume. Et surtout, nous avons des clauses de sauvegarde, de rétorsion, de sanctions, un mécanisme qui nous protège. Et donc ce que nous disons à Boris Johnson, c'est qu'il y a un curseur à mettre. Plus on ouvrira commercialement nos portes, plus on voudra être convergent réglementairement pour ce qui vient chez nous. Je ne parle pas de ce que le Royaume-Uni voudra faire chez lui pour ce qui le concerne. Maintenant, il y a un élément à prendre en compte qui montre que notre position, elle n'est pas politique, revancharde ou je ne sais quoi. Elle est économiquement rationnelle. C'est que toutes les entreprises britanniques que je rencontre et qui s'expriment veulent elles aussi conserver les règles européennes. Pourquoi ? Parce qu'il y a 5 millions de camions qui passe chaque année entre Calais et Douvres. Ça veut dire que toute la production est totalement entremêlée et que les industriels de l'automobile, de l'agroalimentaire et de tous les autres secteurs, ils ne savent pas produire des biens avec deux jeux de normes. Ils savent produire avec un jeu de normes, il y a 460 millions d'Européens, il y a 60 millions de Britanniques. Et ce qu'ils disent, c'est en fait, on préférait suivre les règles européennes, comme ça on est sûr que tout ce qu'on produit peut aller non seulement bien sûr au Royaume-Uni, mais également sur le grand marché unique européen.
Alors on est au début de ces négociations, est-ce que vous avez l'impression en ce moment-là, 9 janvier, que les Britanniques savent ce qu'ils veulent avec ce qu'ils veulent faire, quelle relation ils veulent avec l'Union européenne ? Est-ce que vous avez l'impression qu'ils le savent ?
Moi j'ai l'impression que Boris Johnson, il veut acter la souveraineté du Royaume-Uni. Et vous voyez dans ce que je dis, il n'y a rien qui la remette en cause. Après, je pense qu'il y a un test de cohérence. On ne peut pas demander en 11 mois de signer un accord de libre-échange qui ne parte pas de l'application des mêmes règles. Ça voudrait donc dire qu'en 11 mois, on est capable de réécrire l'intégralité du code douanier, l'intégralité du code des contrôles, l'intégralité de ce qui régit des espaces économiques. Songez qu'avec le Canada, ça a mis plus de 20 ans. Avec l'Amérique du Sud, sur lequel nous n'avons pas signé, les fameux accords Mercosur ne nous conviennent toujours pas. Parce que justement, nous n'avons pas assez de garanties sur la capacité de notre côté à nous assurer que ce qui arrivera ne créera pas de concurrence déloyale avec nos agriculteurs ou nos pêcheurs ou nos entreprises. Et ça a mis des décennies. Donc, ce qui, moi, m'interroge, c'est la capacité à être cohérent. Il y a effectivement un chemin pour que nous signions très vite un accord commercial, un accord sur la défense, un accord sur le transport, un accord sur la pêche. Du côté européen, on est réaliste. On voit ce chemin. Mais si les Britanniques veulent prendre un autre chemin, il peut exister, mais nous aurons beaucoup, beaucoup de mal à pouvoir le négocier en 11 mois. Donc c'est là qu'on a une tension. C'est pas tellement sur ce qu'ils veulent, c'est sur ce qu'ils veulent faire en aussi peu de temps.
À vous écouter, on a l'impression, notamment quand vous donnez ces exemples de des entreprises qui se disent « nous, en fait, on n'a aucun intérêt à produire les choses différemment au Royaume-Uni et en Europe », puis il y a d'autres exemples, on a l'impression, à vous écouter, que les positions sont en position, les Européens sont en position de force, en fait, dans cette négociation, aussi par le nombre, en fait, il y a un pays contre 27 pays, etc. Est-ce que le risque pour les Européens n'est pas de se retrouver face à ces portes, non pas face à un nouveau Singapour, parce qu'il y a plein de raisons qui expliquent que ce serait a priori pas
le fameux Singapour sur Tamise.
Singapour sur Tamise, mais plutôt
c'est-à-dire le grand paradis fiscal aux portes de l'Europe.
C'est ça, mais plutôt face à un pays qui va retrouver une agilité, pour ne parler que de ça, que les Européens au moins, parce que faire bouger 27 pays, c'est très compliqué, c'est très long, adopter des normes, c'est très long, et eux pourront, dans un certain nombre de secteurs, finalement, être précurseurs ou être plus souples que nous.
Ce que je vois surtout, c'est que les Britanniques sont seuls. Et il y a une chose qu'ils perdent, c'est la capacité à pouvoir peser d'égal à égal avec les grandes puissances de notre monde. Quand vous êtes face à la Chine, quand vous êtes face aux États-Unis, quand ils vont devoir... si tel est le chemin qu'ils prennent, renégocier des accords avec une foultitude de pays qui, jusqu'à maintenant, dans les échanges, les choses étaient régies par l'Union européenne. Je trouve ça compliqué d'imaginer qu'ils vont pouvoir travailler d'égal à égal avec un pays de 60 millions d'habitants face aux États-Unis, avec plus de 300 millions d'habitants, face aux Chinois, plus d'un milliard d'habitants. Donc moi, là, je ne sais pas si je dois parler en leur nom, mais quand j'observe la situation, il y a une chose qui me frappe, c'est qu'il va falloir qu'ils recréent beaucoup de politiques nationales. C'est le choix qu'ils ont décidé de faire dans l'agriculture, dans le soutien aux élus locaux, dans la recherche, qui sont des politiques qui sont largement partagées dans l'intérêt collectif entre Européens. Et ils en sont sortis. Et puis, il y a toutes ces négociations, ce poids géopolitique qu'ils souhaitent acquérir dans le monde. Quand on est 60 millions, je pense que c'est compliqué. Ensuite, je ne suis pas là pour faire des paris. Moi, mon objectif dans cette affaire, ce n'est pas de savoir ce que va devenir le Royaume-Uni en tant que tel. C'est le choix des politiques britanniques de le définir.
La question derrière, c'est qu'est-ce que doivent faire les Européens pour redonner aussi cette impression que l'Europe, finalement, peut agir.
Mais là où je vous rejoins, c'est que, comme je vous l'ai dit au départ, nous, Européens, ce Brexit doit nous réveiller. Le président de la République appelle souvent au sursaut, et je crois que c'est le bon terme. Si nous ne sommes pas capables d'apporter plus de résultats concrets, d'avoir une Europe qui marche, au fond, plus activement, plus rapidement aussi sur des grandes crises. Je sais, les sujets migratoires, c'est pas un sujet où l'Europe doit devenir une forteresse, c'est juste un sujet où l'Europe doit pouvoir parler d'une seule voix et s'organiser. Sur les sujets climatiques, toute la jeunesse européenne est dans les rues le vendredi après-midi. Qu'est-ce qu'ils nous disent, les jeunes ? Ils nous disent avancer plus vite. Si sur les sujets économiques, industriels, on n'est pas capable de donner à nos PME les moyens de grandir, d'innover et de se protéger face à toutes les concurrences objectivement déloyales qui arrivent sur notre marché, si nous n'avons pas ces résultats concrets-là, alors oui, le Brexit aura gagné. Il aura gagné pas parce que tout le monde va sortir, mais parce que pernicieusement, nous aurons perdu la capacité de répondre à ceux qui ont des doutes sur l'Europe. Vous savez, une grande majorité d'Européens soutient l'Europe conceptuellement. Ils sont d'accord avec l'Europe. 75% des Français, vous leur posez la question, est-ce que vous pensez que c'est une bonne chose? Ils sont d'accord. Mais ensuite, dans le détail, est-ce qu'ils font confiance à l'Union européenne pour vraiment les protéger, pour vraiment amener du progrès, pour vraiment faire que les choses changent? C'est là où on doit travailler. Et donc, vous savez, en 2022, du premier semestre 2022, la France présidera le Conseil de l'Union européenne. Pendant 6 mois, la France aura la responsabilité des travaux européens. Eh bien, ça nous donne un objectif parfait pour nous dire que sur un certain nombre de sujets, il faut qu'on ait avancé, qu'on ait fait du concret.
Ah,
si on n'a pas des résultats, à un moment donné, on ne peut pas faire voter les gens indéfiniment sur des promesses.
Mélanie Montchien, je vous invite à attendre l'oreille. Nous allons rejoindre la rédaction de Courrier International. Et Sacha Michel, de Courrier International, a une question à vous poser.
De quelle manière l'Union européenne va-t-elle changer après le Brexit?
D'abord, moi j'espère, et avec le président de la République, on espère qu'elle change en accélérant sa capacité à produire des résultats. Je viens de vous en parler. Ensuite, elle va changer parce que les alliances un peu traditionnelles qui étaient régies autour de l'Allemagne, la France et le Royaume-Uni, qui étaient les 3 pays économiquement qui pesaient le plus, vont naturellement changer. La mission qui est la mienne, ce que je fais moi semaine après semaine, c'est d'éviter que l'Europe devienne un espace où il y ait des blocs. Où il y a le bloc du Nord, le bloc du Sud, le bloc de l'Est, et le bloc du Centre, et on sait quoi, et on sait quoi encore. C'est justement qu'on puisse vraiment travailler, sujet par sujet, à créer des majorités. Au fond, ce Brexit, ça doit être un moment de sursaut là aussi. Si on reste dans nos habitudes, dans ceux qui travaillent d'habitude ensemble, et puis ceux qui ne travaillent pas avec eux d'emblée, eh bien, sur un certain nombre de sujets, on ira au blocage. Donc, ça nous oblige de parler de manière renouvelée avec tout le monde. J'étais à Copenhague la semaine dernière. Les pays nordiques, la Finlande, la Suède, le Danemark, étaient historiquement extrêmement proches du Royaume-Uni. Eh bien, j'y vois une opportunité. C'est des pays avec lesquels on va pouvoir travailler de manière renouvelée. Et donc, il faut, voilà, les alliances d'un côté, et puis surtout qu'on accélère, qu'on ait des résultats, et que la meilleure réponse aux Brexiteurs et à ceux qui pensent que c'est par la dissolution qu'on va renforcer le sort des Européens, c'est de leur montrer que c'est parce qu'on travaillera ensemble, sujet par sujet, qu'on pourra être plus fort et notamment qu'on pourra être plus crédible face à la Chine d'un côté.
Alors vous introduisez, Mélanie Montchien, à la deuxième question que Sacha Michel de Courrier International avait envie de vous poser.
Le départ du Royaume-Uni implique-t-il un resserrement des liens avec Berlin et une renaissance du triangle de Weimar?
Vous avez 1 minute 15 pour répondre à cette question.
Alors, le triangle de Weimar, j'y crois profondément. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai réuni mes homologues.
Alors, le triangle de Weimar, il faut rappeler.
Le triangle de Weimar, c'est la Pologne, l'Allemagne et la France qui travaillent ensemble. À nous trois, maintenant, après le Brexit, on représente 45% de la population européenne. Donc ça nous oblige, plus que jamais, à aussi travailler dans cet espace-là. Mais comme je l'ai dit, ça nous oblige à relancer toutes les alliances, non pas pour se dire qu'il y a nos amis et les autres, mais parce que sujet par sujet, eh bien, les citoyens européens, parfois ceux du Nord, ceux de l'Est, ceux de l'Ouest, ceux du Centre, ont des intérêts communs. Et donc c'est là où il faut qu'on travaille. Ce que je cherche et ce que nous faisons avec le président de la République, c'est de parler à tout le monde et d'arrêter de penser qu'il y a les petits pays qui sont les autres. Vous savez, souvent, on décide à l'unanimité. À l'unanimité, l'Estonie, la Slovénie, la France, l'Allemagne ont le même poids. Il faut que leurs représentants lèvent la main pour être d'accord. Et donc, ça nous oblige à chercher des alliances, pragmatiquement, sujet par sujet. C'est la mission que je mène, j'espère, avec le plus d'énergie possible, parce qu'il n'y a pas de magie, vous savez, au Conseil européen.
Si on ne prépare pas les choses en amont...
C'est pas parce qu'on va venir à Bruxelles s'enfermer dans une pièce qu'on va trouver par magie des accords. Il faut faire tout ce travail préparatoire et je crois que le Brexit nous le rappelle.
Le Brexit facilite, on redécouvre les petits pays qu'on avait un petit peu oubliés.
Bon, moi, depuis 9 mois, je les sillonne. Et mon premier voyage, vous voyez, c'était les Pays-Bas, puis la Lettonie, puis le Portugal, l'Irlande. C'est des pays qui comptent énormément.
On va faire une pause sur RFI, la radio de l'Europe et du monde, juste le temps de prendre connaissance des toutes dernières nouvelles de la planète. Et ce sera François Bernard qui nous présentera ce flash. À tout de suite.
Escucha Europei.
Stavrodromi tis Evropis.
Treffpunkt Europa.
The Hub of Europe.
Carrefour de l'Europe.
Daniel Desesquelles.
Rebonjour, Carrefour dans l'Europe, deuxième partie. Nous sommes toujours avec Émilie de Montchalin, la secrétaire d'État en charge des affaires européennes. Et à mes côtés, Clémentine Forissier, rédactrice en chef du site des politiques françaises et européennes, contexte.com, pour vous interroger, Émilie de Montchalin. Nous avons vu dans la première partie de l'émission quelle relation l'Union européenne entend conclure avec le Royaume-Uni après le Brexit. Plus difficilement, la relation que le Royaume-Uni entend conclure avec l'Union européenne. Mais je voudrais revenir à cette question qui me... Tarabiscotte, Amélie de Montchalin. La précédente Commission européenne, on parlait beaucoup fiscalité, renforcement de la zone euro. On n'en parle plus du tout. On va parler évidemment du pacte vert, qui est une des préoccupations de cette nouvelle Commission. Est-ce que ça veut dire que les problèmes de fiscalité, qui sont pourtant très inégalitaires en Europe, le fait que les GAFA ne payent pas leurs impôts, le fait que la zone euro, elle est consolidée, mais pas tant que ça, est-ce que c'est des problèmes qui sont résolus pour vous ou c'est des problèmes qui sont passés de mode ?
Alors, on en parle toujours.
Mais
on en parle peut-être moins médiatiquement, mais quand je regarde sur les GAFA, quand nous cherchons à créer des ressources propres dans le budget européen et que nous disons que nous voulons que tous les acteurs économiques qui bénéficient du marché unique puissent et doivent contribuer eh bien, au fonctionnement européen, notamment en payant des impôts, je peux vous dire que nous n'avons pas lâché d'un gramme notre ambition sur ce sujet. Il se trouve qu'il y a des négociations actuellement à l'OCDE, au niveau mondial. Et les Européens, de nombreux pays, 7 pays, au-delà de la France, ont pris la décision d'appliquer une taxe sur les GAFA au niveau national. Et donc nous suivons tous cela. Il y a ceux qui ont, comme nous, fait le choix d'avoir une taxe nationale. Elle a été payée en 2019 en France. Elle sera payée en 2020 également. Ce que Bruno Le Maire a dit, c'est qu'elle sera payée en 2020 en France, soit avec la formule française, soit avec une formule mondiale, si nous en trouvons une d'ici là. Mais sur ce sujet, nous n'avons pas reculé. Sur les sujets de zone euro, de croissance, de prospérité, nous avons un travail avec Thierry Breton majeur devant nous. Recréer une stratégie industrielle, recréer une stratégie de croissance qui finance nos entreprises. Vous savez, il y a quelque chose qui est très choquant. Nous sommes un des rares continents au monde qui a un excès d'épargne. Nos citoyens épargnent. Ils épargnent parce qu'ils ont besoin de préparer leur retraite, ils épargnent parce qu'ils ont de l'argent qu'ils mettent de côté. Eh bien, cette épargne, nous l'exportons en particulier vers les États-Unis. Est-ce que vous pensez que c'est normal que dans un continent comme le nôtre, alors que nous voulons investir massivement pour la transition écologique, alors que nous voyons la transition numérique arriver à toute vitesse, est-ce que c'est normal que d'un côté, on ait des entreprises, des PME, ou même des entreprises plus grandes, qui soient en demande de financement et qui parfois se voient être financées par la Chine, alors que nous, de l'autre côté, nous avons organisé un système qui fait que notre épargne part aux États-Unis. On marche sur la tête. Et donc, sur ce sujet-là, je peux vous assurer que et la Commission, et les ministres de l'économie et des finances, et les chefs d'État et de gouvernement, et au premier titre duquel le président de la République, Emmanuel Macron, nous travaillons. Parce que nous voyons que nous ne pouvons pas d'un côté essayer de faire réduire le chômage, de donner des carrières stables, prometteuses à notre jeunesse, et avoir de l'autre côté un système économique et financier qui fait que nous épargnons plus que nous investissons et que nous exportons notre épargne vers les États-Unis. Ça veut dire quand même que le jour où nous avons un problème économique ou financier aux États-Unis, les Européens seront des victimes directes. Alors que nous avons un continent qui a besoin d'investir. Quand nous voyons la place que prend la Chine dans certains pays, au Portugal, en Grèce et ailleurs, c'est pas parce que d'un seul coup, ces pays voudraient que la Chine soit au cœur de leur économie, c'est parce qu'il n'y a pas d'alternative. Mais je peux vous dire qu'il y a 3 000 milliards d'euros épargnés en Allemagne qui aujourd'hui n'ont pas assez de rendement. Il y a 1 700 milliards d'euros en France dans nos assurances vie, qui ne rapporte plus assez aux ménages français. Donc, sur ce sujet-là, nous n'avons absolument pas décidé de lâcher quelque ambition que ce soit. Nous travaillons activement.
Alors, l'ambition première aujourd'hui de la Commission européenne et donc de l'Europe, c'est le fameux pacte vert. L'Union européenne entend être le continent moteur de la lutte contre le réchauffement climatique avec un objectif ambitieux d'atteindre au niveau européen la neutralité carbone en 2050, c'est-à-dire ne plus produire plus de carbone que nous sommes capables d'en absorber. Clémentine Forissier.
on voulait vous poser en préambule une question. Est-ce que ce pacte vert, donc l'idée que toutes les politiques européennes seraient irriguées par une volonté de lutter contre le changement climatique, n'est pas en contradiction avec le fait que la Commission européenne continue de promouvoir les accords de libre-échange, ou en tout cas de vouloir en conclure, etc. Est-ce qu'il n'y a pas une opposition intrinsèque entre ces deux façons de voir la façon dont l'Union européenne fonctionne ?
Il y en aurait une si nous n'avions pas poussé la cohérence, qui est la clé sur la transition écologique. La clé, c'est la cohérence. Nous avons poussé l'ambition en disant que nous ne signerons pas de nouvel accord commercial si l'accord de Paris n'était pas inclus comme une clause essentielle. Je vais parler en français clair. Ça veut dire que nous ne pouvons pas, dans l'état actuel des choses, signer de grands accords commerciaux avec les États-Unis. Ça veut dire que nous ne pouvons pas, dans l'état actuel des choses, signer un accord avec le Brésil. C'est pour ça d'ailleurs que nous avons suspendu tout ce travail sur le Mercosur, et c'est pour la raison pour laquelle, au mois de mai dernier, la France a dit très clairement qu'elle s'opposait à un mandat commercial nouveau avec les États-Unis. Et donc, évidemment qu'il faut de la cohérence, mais non seulement sur le sujet commercial, mais aussi sur les sujets, par exemple, agricoles. On ne peut pas d'un côté demander aux agriculteurs européens de réduire les pesticides de 30 ou 50% d'ici 2030, et puis de l'autre, continuer à importer des produits qui viendraient de pays, et d'ailleurs du Royaume-Uni potentiellement, où ces normes ne s'appliqueraient pas. Cette cohérence, elle s'applique dans les transports, dans la politique de concurrence, dans les aides d'État, dans la régulation financière, bref, elle s'applique partout. On vient de parler d'épargne. Si on n'a pas un mécanisme incitatif, très contrôlé, très fort, pour que notre épargne, l'épargne privée, ne se mettent pas à financer davantage la transition climatique, mais continue, imaginons, à financer des centrales à charbon ou une économie basée sur des carburants fossiles, ben on marche sur la tête. C'est pour ça d'ailleurs qu'on a mis en place une taxonomie, c'est-à-dire qu'on va pouvoir clarifier qu'est-ce qui contribue à la transition climatique pour que vous et moi, quand nous épargnons, eh bien nous puissions mettre notre argent à un endroit qui convient. Donc vous voyez, ça concerne à la fois la régulation par exemple financière, mais aussi ce que fait la Banque européenne d'investissement, qui va devenir une vraie Banque européenne du climat, en activant plus de 1 000 milliards d'euros. Donc on voit qu'à tous les niveaux, il nous faut de la cohérence, sur le sujet commercial comme sur les autres.
Alors justement, la semaine prochaine, nous consacrerons un carrefour d'Europe à ce pacte vert, mais ce programme ambitieux qui va toucher tous les domaines, industriels, transport, énergie, agriculture, alimentation, a un coût, vous l'avez évoqué, 1 000 milliards d'euros sur 10 ans. Comment le financer sans augmenter le budget de l'Union européenne, qui aujourd'hui, plus ou moins, est l'équivalent de 1% du PIB des États membres de l'Union européenne?
Déjà, on rend le budget compatible et cohérent avec la transition climatique. C'est pour ça que la France demande que 30% de ce budget soit dédié explicitement à la transition climatique. C'est pour ça que nous demandons que 10% en plus soit dédié à la lutte contre la pollution et la préservation de la biodiversité. Donc ça, c'est du côté des dépenses. Et puis du côté des ressources, nous aimerions, et je pense que nous sommes en bonne voie, d'arriver à créer une ressource sur le marché des permis CO2, c'est-à-dire que ce marché d'échange de droits à polluer, eh bien, finance la transition climatique. Nous voulons créer une ressource sur le plastique non recyclé, c'est-à-dire que si vous recyclez du plastique, eh bien vous payez moins que si vous ne... Enfin, pardon, si vous recyclez du plastique, oui, vous le payez moins que si vous ne recyclez pas du plastique.
Et on voudrait surtout... À quel niveau et comment ?
On voudrait derrière aussi créer un mécanisme d'inclusion carbone aux frontières, la fameuse taxe carbone aux frontières dont beaucoup d'Européens voient bien la nécessité. On ne peut pas demander à nos industriels de faire beaucoup mieux, avec beaucoup moins de produits chimiques, avec beaucoup moins de CO2, et puis de continuer à importer, sans que cela ne gêne personne, des produits qui viennent de l'autre bout du monde, où d'abord ils ont émis plus de CO2, et en plus, ils créent de la concurrence déloyale. Donc, à la fois du côté des ressources, on veut que nos ressources soient vertes, et elles soient incitatives pour le changement et la transition climatique, et du côté de nos dépenses, nous voulons aussi faire des choses cohérentes.
Qui est d'accord avec vous là-dessus ? Parce que le sujet du budget est toujours un sujet un peu épidermique, quel que soit le contexte. Et quels sont les pays qui sont d'accord pour dire « Ok, donc c'est 1% d'un côté et des ressources supplémentaires, qu'on appelle ressources propres dans le jargon, qui veut vraiment pousser ça ?»
Les Allemands, par exemple.
Aujourd'hui, du côté allemand, il y a la conscience que sans ressources propres, en plus des contributions nationales, et j'insiste, les ressources propres, c'est pas de demander à ceux qui payent déjà des impôts d'en payer plus. C'est de demander à ceux qui profitent de ce qu'est l'Europe et qui n'y contribuent pas, les importateurs de plastique, les importateurs de produits qui viennent sans respecter nos normes, ceux qui aussi polluent beaucoup, eh bien leur demander, ça peut aussi être les acteurs du digital, ça peut être énormément d'acteurs, notamment dans le secteur financier, de dire, voilà, nous, citoyens, nous, entreprises européennes, eh bien, nous payons des impôts et une partie va au budget européen. C'est comme ça que nous avons construit l'Europe. Mais nous demandons à ceux qui ne payent pas aujourd'hui de ressources pour bénéficier de ce que nous sommes, de contribuer. Qui est d'accord là-dessus? Eh bien, une grande majorité de pays. Moi, j'ai fait le tour, là. Je continue mon tour des capitales.
Donc, le 20 février,
demain
on
matin,
va trouver un accord sur les ressources
demain propres. Matin, vous voyez, je reçois tous les rapporteurs de tous les groupes politiques qui travaillent sur le budget au Parlement européen. Eh bien, sur ce sujet-là, je peux vous dire qu'il y a un soutien unanime, extrêmement fort du Parlement européen.
Mais ce n'est pas au Parlement européen que ça va se décider.
Sauf que le Parlement, il peut dire oui ou non. Donc, je peux vous dire que sur ce sujet-là, les États membres, qui doivent présenter une proposition, ils savent très bien que si nous ne sommes pas à la hauteur de ce que le Parlement européen voit comme une condition absolue d'un accord collectif sur ce budget européen, eh bien, il y a un risque. Donc, aujourd'hui, je peux vous dire, c'est pas seulement qu'ils sont d'accord parfois par conviction, mais par réalisme. Il nous faut un budget. On ne peut pas avoir, vous voyez, amener les citoyens à voter, créer une nouvelle commission, changer la dynamique politique au Parlement européen, avoir Ursula von der Leyen qui nous fait un discours, des feuilles de route pour tous les commissaires qui sont des feuilles de route ambitieuses, et ne pas arriver à nous mettre d'accord sur les moyens qu'on se donne pour faire tout ça. Donc, il y a des pays qui y vont parce qu'ils ont la conviction que c'est la façon d'y arriver, puis il y a ceux qui s'y rangent parce qu'ils voient bien que s'il n'y a pas de ressources propres, si nous n'avons pas des nouveaux moyens de financer notre ambition européenne, eh bien, tout simplement, il n'y a pas d'accord. Et s'il n'y a pas d'accord, il n'y a pas de budget. S'il n'y a pas de budget, ça veut dire qu'on n'est pas capable de répondre à ce que les citoyens nous demandent de faire, c'est-à-dire travailler pour eux, pour les protéger, pour le climat, pour une stratégie industrielle qui leur permet de retrouver partout en Europe des emplois.
Alors, vous avez dit, les Allemands ont conscience, prennent conscience. Bon, entre prendre conscience et prendre une décision, il y a quand même une grosse nuance.
On travaille beaucoup avec les Allemands, mais vous savez, le budget, ça se fait à l'unanimité. Et donc, j'y reviens. Il n'y a plus de petits ou de grands pays. Il y a bien sûr des pays qui contribuent plus que les autres. Mais quand vous êtes, vous savez, en Suède, aux Pays-Bas, au Danemark, en Finlande, ce sont des pays qui contribuent, comme la France, plus au budget qu'ils ne reçoivent d'argent de l'Europe. La France a toujours été, comme on dit, un contributeur net. C'est-à-dire que nous avons toujours mis plus d'argent que ce qu'on reçoit. Et je pense qu'on l'a fait sans jamais rechigner. On le fait avec exigence. On le fait avec beaucoup de vigilance. Mais nous pensons que ce que nous recevons de l'Europe, ça va au-delà, voyez, des flux financiers. Et quand le président de la République fait en Pologne, cette semaine, un discours sur la souveraineté, qui nous dit « nous sommes dans un monde dangereux », on le voit, un monde incertain. Si nous ne nous donnons pas les moyens d'affirmer une forme de puissance et d'autonomie dans tous les domaines, que ce soit bien sûr l'alimentation, pouvoir nous nourrir nous-mêmes, la défense, pouvoir nous protéger nous-mêmes, l'industrie, pouvoir définir nous-mêmes ce que sera l'intelligence artificielle que nous acceptons en tant qu'Européens, par exemple. Si nous n'avons pas les moyens politiques de faire ce que nous disons, eh bien dans ce cas-là, on reste dans les discours, et dans ce cas-là, les citoyens, eh bien ils ont raison de ne pas nous suivre, parce qu'ils nous disent « bon voilà, vous nous faites des belles promesses et on n'a pas de résultats ». Donc le budget, c'est un outil politique. C'est un outil qui permet de mettre en face de nos mots la possibilité de faire. Et je crois que l'Europe a besoin plus que jamais de faire. Et avec Ursula von der Leyen, avec cette nouvelle commission, on a confiance. Ce que la commission cherche à faire, je pense, va dans la bonne direction. Mais maintenant, il faut qu'on le fasse vraiment.
Il y a un dernier point sur le budget, c'est la question de l'état de droit. En gros, pour schématiser, Français et Allemands disent aux Polonais ou Hongrois, si vous ne respectez pas les règles de l'état de droit telles qu'elles sont prévues par les traités européens, ça sera du donnant-donnant. En fait, vous ne pourrez pas avoir autant d'argent, par exemple, pour l'agriculture ou pour les régions, etc. On en est où de ce marchandage? Est-ce que ça crée un électrochoc chez eux ou est-ce que
ce terme. C'est pas du marchandage. J'y reviens. Un budget, c'est un outil politique. Vous savez, vous l'avez dit, pendant 2 ans, j'ai travaillé sur le budget français. Un budget, vous savez, c'est pas un tableau de chiffres. C'est pas quelque chose d'abscon qui serait réservé aux technocrates et à ceux qui mettent des lunettes comme moi parce qu'ils aiment bien les chiffres. Un budget, c'est un outil éminemment politique. Ce sont des choses que chaque citoyen, par ses impôts, on contribue tous à ce budget. Vous tous, nous qui écoutons cette radio, nous contribuons quand nous sommes européens à ce budget. Évidemment, que nous avons au cœur du projet européen, nos valeurs. En disant ça, certains vont vous dire c'est un poncif. C'est pas un poncif du tout. Au cœur du projet européen, l'article 2 de notre traité, l'article 2, pas le 50e, le deuxième, il nous dit « Nous sommes un espace où nous sommes protégés de l'arbitraire. Nous sommes protégés parce que nous avons des institutions fortes. Nous sommes protégés du fait que chacun soit dans une situation d'incertitude. Ça veut dire qu'il faut qu'il y ait une justice qui fonctionne de manière indépendante. Ça veut dire qu'il faut qu'il y ait des règles démocratiques qui s'appliquent. Ça veut dire que tout un politique peut être renversé par le scrutin et le suffrage. Si cela n'est pas garanti, comment voulez-vous que les citoyens aient confiance ? Et donc la France est aux côtés absolu des institutions que nous avons créées pour faire respecter cet état de droit. C'est la Cour de justice de l'Union européenne, c'est la Commission. Et à chaque fois qu'il y a un manquement, la France soutient ceux et celles qui, dans leurs institutions, travaillent pour les noter.
Mais comme vous le disiez, c'est un budget qui se décide à l'unanimité. Donc ça veut dire que les Polonais et les Hongrois, ils doivent aussi dire
bien
oui.
Sûr.
Et que vous répondent-ils quand vous leur dites, en fait, si vous ne respectez pas ces valeurs, vous n'aurez pas l'argent qui va en face.
Eh bien, nous travaillons, et je peux vous dire que ce n'est pas un sujet du tout sur lequel il y a des tabous. Je pense que c'est un sujet sur lequel nous allons arriver à avoir un accord. Mais il demande quelque chose qui est légitime. Il demande à ce que ce soit prévisible. Là aussi, qu'il n'y ait pas d'arbitraire. Si on veut protéger les citoyens contre l'arbitraire, il faut aussi que nous rendons tous nos mécanismes européens prévisibles, qu'il y ait un cadre. Et donc, nous travaillons à établir le cadre, la prévisibilité, pour que ces décisions puissent être prises. C'est extrêmement important ce qu'on se dit là ce soir. Vous savez, il y a des personnes aujourd'hui dans certains pays, parce qu'elles sont homosexuelles, qui se retrouvent dans des situations... de non-protection de leurs droits fondamentaux à vivre en sécurité. Vous avez des juges aujourd'hui qui, dans certains pays, sont mis en fragilité parce qu'ils auraient des idées politiques qui ne sont pas celles du gouvernement. Dans ces deux cas-là, ce sont des exemples. Nous avons, avec le Conseil de l'Europe, avec les institutions de l'Union européenne, des mécanismes de protection. Et je peux vous dire que la France, nous savons d'où nous venons. Nous savons pourquoi cette Europe a été créée il y a 70 ans. Au Conseil de l'Europe. Nous savons d'où vient l'Union européenne. Elle vient de la volonté absolue de protéger les citoyens contre l'arbitraire. L'état de droit, ce n'est pas un concept. C'est ce qui fait que nous sommes, en France et ailleurs, on a toujours une voie de recours. Vous savez, le président de la Cour européenne des droits de l'homme, il vous dit ce que nous faisons, il est essentiel. Parce qu'un citoyen qui se sent écrasé par une machine qui peut le dépasser a toujours une voie de recours. Et donc nous devons préserver cela à tout prix. Et donc nous le faisons au Conseil de l'Europe, plus vieille institution européenne qui réunit 47 pays de notre continent, et nous le faisons sans relâche dans le cadre de l'Union européenne. Et donc oui, la conditionnalité pour l'état de droit, c'est le mot technique pour le dire, c'est éminemment politique. On cherche aussi à faire, avec certains autres pays européens, une conditionnalité sociale. C'est qu'un pays qui ne protège pas l'ensemble de ceux qui travaillent, qui n'assure pas un niveau de revenu décent pour ceux qui travaillent, et bien là aussi... Est-ce qu'on veut, nous tous, Européens qui contribuons au budget, nous dire que, on fait comme si on n'avait pas vu. On fait comme si de rien n'était. Si des pays, par exemple, vont à l'encontre de l'égalité entre les hommes et les femmes, nous ne voulons pas que, si les choses vont trop loin, si aucune action n'est faite pour rétablir l'égalité, nous ne voulons pas engager le budget européen comme si de rien n'était. Et donc, sur ces deux conditionnalités, on travaille. Mais je suis assez optimiste, parce que je pense que tout le monde comprend bien que derrière cette question, il en va de la confiance des citoyens dans ce que nous faisons pour eux.
Carrefour de l'Europe, Daniel Desescales.
Nous sommes avec Amélie de Montchalin, la secrétaire d'État en charge des affaires européennes. On a parlé valeurs européennes, on a parlé budget. Budget ambitieux, on l'a dit, avec des nouvelles ambitions en matière spatiale, mais aussi au niveau de la 5G, on l'a évoqué discrètement via Thierry Breton, ou dans le domaine de la défense, ambition modeste, plus modeste dans le domaine de la défense. L'Union européenne ambitionne de jouer un rôle géostratégique dans la marche du monde. Ambition exprimée par Ursula von der Leyen dès sa nomination. Ce qui est un petit peu nouveau, et c'est dans ce contexte qu'Emmanuel Macron a évoqué vendredi dernier devant les élèves de l'école militaire, en exprimant, sans trop le dire, mais en l'évoquant tout de même, que la dissuasion nucléaire française avait implicitement une dimension européenne, d'autant plus qu'avec le départ des Britanniques, la France reste la seule puissance nucléaire parmi les 27. On peut dire également que la France reste la seule à avoir un siège permanent au Conseil de sécurité des Nations Unies. Vous avez compris quoi, vous, Emmanuel Macron, Amélie de Montchalin, au propos d'Emmanuel Macron?
Moi, j'ai compris, et c'est ce que nous faisons à ses côtés avec le président depuis plus de 2 ans maintenant, qu'il nous fallait une stratégie européenne de défense et de sécurité. Que dans le monde où nous sommes, l'Union européenne, les pays européens n'ont pas à renier les alliances, n'ont pas à renier l'OTAN, n'ont pas à renier notre histoire. Mais nous ne pouvons pas, si nous voulons être une puissance crédible, nous considérer comme des alignés ou des inféodés. Les États-Unis ont une stratégie. Nous n'avons pas toujours exactement la même. Regardez ce qui s'est passé en Iran, regardez ce qui s'est passé au nord de la Syrie. Les Chinois ont des stratégies. Et pour l'instant, nous sommes rarement ensemble. Mais il est extrêmement important, et c'est ce que dit le président, que nous définissions une forme d'autonomie stratégique. Ça ne veut pas dire qu'on sera contre, ça ne veut pas dire qu'on va être belliqueux, ça ne veut pas dire qu'on va arriver pour guerroyer sur tous les théâtres du monde. Mais regardez ce qu'on fait au Sahel. Au Sahel, parce que nous, Européens, considérons qu'il y a un enjeu de sécurité, de développement, de pacification et de lutte contre le terrorisme, eh bien, nous agissons ensemble. Et depuis le sommet qui a eu lieu à Pau il y a quelques semaines, nous allons agir encore plus ensemble. Nous invitons bien sûr d'autres puissances ailleurs dans le monde qui voudraient venir à nos côtés à le faire avec nous. Mais c'est extrêmement important que nous, Européens, nous puissions définir comment nous voyons la situation dans le monde. Comment nous pouvons amener nos armées à travailler ensemble, à nous déployer ensemble. Et donc, le but, c'est pas, vous voyez, de nous montrer nos muscles et de dire, nous, Européens, ça y est, nous créons une armée tout seul, de manière totalement autonome. C'est pas ça. Mais nous devons construire, et on dit, on voudrait un conseil de sécurité européen. On doit construire une doctrine, une vision du monde qui soit la nôtre. Parfois, elle sera exactement celle des Américains. Parfois, elle sera différente. Et ce n'est pas grave. Et c'est plutôt bien, et c'est même plutôt nécessaire.
Alors un parapluie nucléaire français qui s'étendrait à toute l'Europe, c'est pas pour demain néanmoins.
Mais quand nous parlons de dissuasion, et le président le dit très bien, le jour où les intérêts stratégiques nationaux de la France sont en danger, on voit bien qu'il y a un lien évident avec l'Europe. On voit bien que si on est dans une forme de protection, de dissuasion, et donc de réponse à une éventuelle attaque, vous imaginez bien que notre territoire, vous le regardez, il est au cœur de l'Europe, donc il y a bien sûr des implications européennes. Et donc, ce que nous disons, c'est que nous avons à travailler avec les Européens. Ce n'est pas du tout anodin que ce discours ait lieu la même semaine d'un voyage du président de la République en Pologne, où avec Florence Parly, avec Jean-Yves Le Drian, ils ont eu des discussions stratégiques sur la sécurité que nous voulons construire entre nous, entre Européens. Vous savez, le 14 juillet dernier, on défilait sur les Champs-Élysées 10 armées, les unes à côté des autres, 10 armées européennes. Qui représentait l'initiative européenne d'intervention. Dans ce 10 armées, il y a des pays comme, vous voyez, du nord de l'Europe, des Finlandais, qui aujourd'hui travaillent à rapprocher notre capacité à travailler ensemble. Vous avez bien sûr des Britanniques, mais on a ramené ensemble des pays européens. Parfois, les Européens, ils agissent ensemble parce qu'il y a l'Union européenne, parfois, ils agissent ensemble parce qu'ils se mettent ensemble. Et dans l'étroit d'Ormuz aujourd'hui, vous avez une force européenne qui s'est mise en place parce que nous considérons qu'il est important que nous soyons là.
Amélie de Montchalin, il y a des pays qui sont membres de l'Union européenne, puis il y a ceux qui voudraient rejoindre l'Union européenne. Il y a l'Albanie, par exemple, il y a le Monténégro, il y a la Macédoine, la Macédoine du Nord, comme on dit aujourd'hui. Pour l'instant, leur porte leur est fermée par une décision française, pas uniquement, mais enfin française d'abord, avec une évolution dans ce que pourrait être le processus d'élargissement, le processus d'adhésion à l'Union européenne.
Sur l'élargissement, la France dit de manière constante, depuis des années, trois choses. D'abord, pour pouvoir commencer à négocier avec l'Union européenne, il y a des réformes qui s'imposent. Elles sont en cours, elles n'étaient pas terminées quand nous avons commencé à en discuter entre ministres, et donc nous appelons à ce qu'elles se poursuivent. Et certaines sont en bonne voie, et je crois qu'il est important qu'elles puissent se poursuivre. Deuxième chose, la méthodologie, la méthode pour que ces négociations aient lieu ne nous semble pas aujourd'hui satisfaisante. Et elle n'est pas satisfaisante parce que l'émigration en particulier, le départ massif de citoyens de la région des Balkans occidentaux reste une réalité de tous les jours. Et donc, on ne peut pas d'un côté dire « Oui, vous avez une perspective européenne, mais on laisse toute votre jeunesse, tout votre capital économique, tout votre capital humain partir. » Et donc, nous avons demandé, la Commission a travaillé en ce sens, nous avons demandé à ce que, pendant les négociations, les choses soient pilotées politiquement plus activement, que les choses soient plus concrètes, que des politiques européennes puissent être déployées plus rapidement, et surtout que ce soit réversible. C'est-à-dire qu'un gouvernement qui reprendrait le flambeau dans 5 ans, dans 10 ans, et qui dirait bah, « finalement, moi, ça ne m'intéresse plus », qu'il y ait des conséquences. Et puis, troisième chose, si nous voulons vraiment arrimer ces pays à l'espace européen, nous devons leur offrir une voie de développement économique et donc avoir une stratégie. Ce que je vois, c'est que la France, je tiens à vous le dire, nous ne sommes pas opposés à ce que ces pays aient une perspective européenne. Nous voulons faire les choses concrètement. Je récuse une idée sur ce sujet, que ce serait un pur sujet de signal. On n'est pas là pour envoyer des signaux, on est là pour que ça marche. Et donc, nous travaillons avec la Commission européenne pour que, le cas échéant, si nous arrivons à ce que les réformes se poursuivent, que cette méthodologie de négociation soit revue et que nous ayons une vraie stratégie économique, nous puissions, dans ce cas, nous engager. Mais vous voyez, il y a des étapes et il n'y a aucun agenda caché, il n'y a aucun cynisme de notre part. Je tiens vraiment à l'affirmer parce que parfois j'entends des choses. Nous sommes là au travail pour que ça fonctionne pour les citoyens, pour l'Europe et pour la région.
D'un mot, Méline Lanchelin, ce qui caractérise la France, c'est la volatilité des ministres des Affaires européennes par rapport à l'Allemagne, par exemple. Vous êtes la deuxième déjà du quinquennat d'Emmanuel Macron. Est-ce que cela veut dire que lorsqu'on est ministre des Affaires européennes, ce n'est qu'un tremplin pour de plus hautes fonctions ou du moins perçues comme telles? Est-ce que vous serez là en mars après les élections municipales?
Alors, je suis là parce que le Premier ministre et le Président m'ont demandé de prendre le flambeau de cette magnifique mission. Moi, je pense qu'effectivement, parce que le travail demande beaucoup, comme vous l'avez vu, de précision et beaucoup de liens avec beaucoup de pays, j'ai encore fort à faire.
Merci Émilie Monchalin d'avoir été au Carrefour de l'Europe. Merci Clémentine Forissier, Contexte.com et Sacha Michel, Courrier International. Réalisation Hélène Avril avec la complicité de Nadia Ben Mahfoud. Vous pouvez vous abonner au podcast de l'émission via le nouveau site RFI.fr ou n'importe quel fournisseur de podcast. On reste en contact via Facebook et Twitter. Daniel Desesquel, où que vous soyez en Europe ou dans le reste du monde, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Et tout de suite, un nouveau journal sur RFI, la radio de l'Europe et du monde, présenté par Philippe Lecabre.
Priorité santé, Caroline Paris.